Exemple suivant, à Jacob à Sichem, toujours à l'épaule. Il a acquis une parcelle de champ, et l'autel est nommé El, Dieu d'Israël. Il bâtit un autel. Donc, en fait, après avoir reçu un bien, en gros c'est ça, hein, il a un champ, que fait-il? Il offre la dîme lorsqu'il fait une grosse dépense. C'est-à-dire qu'il il dit, j'ai reçu quelque chose, et ben je vais t'en redonner une partie, Seigneur. Une manière d'offrir la dîme, c'est soit de dire, par exemple, j'achète quelque chose d'important, et ben je vais donner aussi une somme pour le Seigneur, ou je vais donner aux pauvres. Soit, une autre manière de donner la dîme, ça peut être de consacrer ce bien-là. De dire, ben, je vais faire consacrer ma maison au cœur de Jésus, de Marie, de Joseph, à tel saint, vous voyez, c'est... Consacrer un bien, c'est bâtir un autel, en fait. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que ce bien-là nous sanctifie quand on est à son contact. Les gens qui rentrent dans ma maison vont être sanctifiés. Les gens qui rentrent dans ma voiture, si je la fais bénir, ils vont être sanctifiés. Je peux faire bénir d'autres choses aussi, mon sac, ma montre. Voilà, je suis stressé tout le temps par l'heure, je fais bénir ma montre, c'est bête. Enfin, c'est des petites choses, mais du coup, quand je regarde ma montre, il y a quelque chose qui va se passer, que je ne mesure pas, qui va m'aider à prendre du recul et à moins diviniser le temps, quoi. On a après cet épisode où, en fait, Jacob bâtit un autel. C'est Dieu qui lui dit bâtir un autel, et il va voir sa famille, et en disant, Dieu m'a demandé ce projet-là, il a le cran de parler de ce projet pour Dieu. Parce que l'autel, c'est toujours un projet pour Dieu, c'est toujours quelque chose qui va faire rentrer Dieu dans nos vies, dans les objets qui nous entourent, dans les personnes qui nous entourent, dans nos habitudes. Et il témoigne auprès de sa famille, et il arrive à rafler toutes leurs mauvaises idoles et à les enterrer, quoi. Et ensuite, il bâtit un autel. Donc là, j'ai parlé du sacrement de réconciliation, parce que c'est, je dirais, quand le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose et qu'on va réussir à renoncer à ce qui nous empêche d'avancer, parce qu'on va être touché par le projet que le Seigneur a pour nous. On va se dire, ben voilà, le Seigneur, il m'envoie faire ça, ben je vais peut-être me mettre un peu plus au carré, je sais pas moi, je bois un peu trop le soir, et on m'envoie m'occuper d'enfants dans des camps de jeunes, et là-bas, ça se fait pas trop de boire devant les enfants, je vais diminuer ma consommation d'alcool. Mais le Seigneur, il m'a fait la délicatesse en premier, que quelqu'un vienne me chercher, alors que moi, je ne rêvais que de ça, de m'occuper d'enfants, par exemple. En fait, je vais faire un petit sacrifice pour lui, mais en m'appuyant sur la joie que j'ai, que le Seigneur m'ait fait une délicatesse, quoi, m'ait confié une mission plus spirituelle. Voilà, et c'est ça qui se passe. Parce que sa famille, en fait, donne les objets. Et avec le sacrement de réconciliation, c'est ça. Seigneur, tu m'as pardonné, merci, et j'ai envie d'avancer vers toi et de ne plus te contrister. Voilà, et puis le dernier exemple, Moïse à Réphidim, après la victoire contre Amalek, ça c'est quand on a une victoire, donc je parlais de quand on acquiert un bien, mais ça peut être quand, je sais pas, on a une promotion dans son travail, on peut faire dire une messe pour les âmes du purgatoire, ça c'est bâtir un hôtel. Oui, toute victoire finalement devrait peut-être appeler dans notre tête, tiens, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui va, pour dire au Seigneur, je t'aime et... Bon. J'arrête là sur les hôtels, c'était une partie un peu hypertrophiée par rapport au reste, mais c'était parce que je trouvais que c'était riche d'enseignement, en fait. Notre dimension sacerdotale dépend aussi d'hôtels, de choses simples qu'on va mettre en place dans notre vie pour le Seigneur. Deuxième chose que font les prêtres, c'est l'enseignement. C'est quelque chose de très fort. Quand on intercède pour le peuple, eh ben on a un devoir de montrer la vérité, de montrer les belles choses aux autres. Donc c'est dit en Deutéronome 33:10 et en Ézéchiel 44:23. Deutéronome 33:10, Ézéchiel 44:23. Ils enseigneront à mon peuple la distinction du sacré et du profane et lui feront connaître la distinction du pur et de l'impur. Donc dans l'enseignement, s'il y a une chose à retenir, c'est mettre des limites et dire que votre oui soit oui et votre non soit non. Autrement dit, ça ce sont des bonnes choses et ça ce sont des mauvaises choses. L'enseignement, c'est pas forcément faire des études ou lire pendant des heures, c'est d'abord mettre une limite entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et quand il y a du mélange, eh bien décrire les choses aussi avec ce que ça a de juste et de moins juste. Voilà. Donc un exemple, par exemple, je regarde un film avec mes enfants, je suis un peu embêté parce qu'il y a des scènes un peu craignos en termes de sensualité ou de violence, et ben je peux très bien avoir une discussion avec mes enfants après en montrant, ben voilà, dans ce film, c'est sympa parce qu'on s'est défoulé en se mettant dans la peau de ces héros qui tuent tout le monde, ou pour les filles en se mettant dans la peau de cette héroïne qui a des super relations amoureuses, voilà, parce qu'on nos rêves se font de manière un peu différente, mais et par contre ça, cette manière de présenter les choses n'est pas juste, en fait, que James Bond, ben il a plein de femmes, comme si ça n'avait aucune importance. Et donc ça, c'est déjà distinguer entre le sacré et le profane, en fait. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est une des grandes batailles de notre temps, en fait, et notamment avec nos enfants. Et donc, le chrétien va apporter un éclairage de Dieu à ceux qui les entourent. Et donc, pour enseigner, finalement, ça va être attention aussi à contrôler nos paroles, à ne pas avoir trop de paroles inutiles, oiseuses ou déplacées, surtout les obscénités, parce qu'en fait, être trop obscène dans son habillement ou ses paroles, c'est une manière d'enseigner un mauvais mélange entre le pur et l'impur, quoi, entre le sacré et le profane, notamment, par exemple, qu'on est un temple du Saint-Esprit, qu'il y a des choses justes, d'autres injustes. Et c'est vrai que quand j'écoute, par exemple, des sketchs sur Vieille Chanson, je suis étonné d'un certain nombre de comiques que ça ne dérange pas du tout de faire un sketch où ils critiquent leur femme pendant tout le sketch. C'est tout bête, mais autant faire une vanne sur sa femme, c'est drôle, autant tout un sketch où on ne fait qu'enfoncer sa femme, ou enfoncer la pureté d'une relation amoureuse, c'est une manière finalement d'avoir un langage obscène, en fait. Alors qu'on peut aussi parler des petits défauts de notre femme, mais en deuxième plan, en montrant d'abord en quoi il y a quelque chose de beau dans le mariage, et que nous aussi on a des défauts, c'est une manière de montrer qu'on s'aime, et que on peut faire de l'humour de manière différente, mais l'attitude, c'est une attitude d'enseignement, finalement. Tout notre être, c'est de l'enseignement, d'abord entre le pur et l'impur. Je dirais que c'est vraiment le cœur de la manière d'enseigner, quoi. Le Christ ne joue pas, lui, il y a des choses, il dit oui, il dit non, si Paul a été si véhément avec Saint-Pierre, c'est parce que Pierre provoquait un scandale en faisant semblant avec certains de pratiquer les coutumes juives, et puis avec d'autres de dire c'est pas grave de les pratiquer. Et en fait, Paul disait, mais là, tu es en train de scandaliser tout le monde parce que tu fais croire que parce qu'on se lave les mains comme dans l'Ancien Testament, on est pur, et c'est comme si tu n'étais pas vrai avec les autres, parce que tu as une attitude qui change selon les personnes. Et ensuite, tu centres les regards sur des rites extérieurs, alors que ce qui est important, c'est ce que le Christ a dit. C'est quand tu portes ton regard sur une femme, t'as pas à la désirer dans ton cœur. C'est ce qu'on a dans le cœur. Après, l'extérieur s'adapte pour ne pas scandaliser les autres, mais ça reste secondaire, quoi. Voilà. Et donc Paul, il était en train de marquer une limite franche entre voilà les choses importantes et voilà les choses qui le sont moins. Et si tu fais comme si ça avait beaucoup d'importance, Pierre, t'es en train de tromper tout le monde, quoi. Voilà. C'est un enseignement. Et il s'est permis de contredire le chef de l'Église, dit Thomas d'Aquin, parce que comme il y avait un scandale, il fallait une réparation devant tout le monde, quoi. Alors que normalement, on ne fait pas ça, d'aller voir l'évêque devant tout le monde en disant voilà. Bon, troisième chose que font les prêtres, ils offrent les sacrifices matin et soir, l'encens. Ils présentent le parfum aux narines du Seigneur. Ils font l'offrande sur l'autel, c'est-à-dire qu'il le grand prêtre préside à l'expiation, c'est-à-dire qu'il va intercéder de manière particulière, et le pape va retenir la main du Père qui s'abat sur le monde, c'est-à-dire il y en a plein qui disent ça dans les mystiques qui voient Jésus ou la Vierge Marie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché est devenu tellement grand que normalement le monde devrait s'autodétruire. Il devrait y avoir quelqu'un à un moment qui appuie sur une bombe nucléaire, il devrait y avoir quelque chose qui fait que le monde s'autodétruit, tellement il y a de la corruption, tellement il y a du mal. C'est ça qui est symbolisé par la main du Père, hein. C'est pas une vengeance, c'est plutôt je ne veux plus que les innocents continuent à pleurer d'innocence, soient persécutés, soient exploités, etc., quoi. Et en fait, le pape a cette capacité, comme Moïse, de retenir la main du Père, parce que il va, c'est comme si Jésus il portait l'Église comme ça, en croix, et que le pape, par sa prière, comme fidèle serviteur, il avait reçu une onction particulière pour, il avait simplement à être fidèle et pur, pour retenir les bras de Jésus, parce que ses mains qui risquent de s'effondrer sur le monde, c'est plutôt les mains du crucifié qui n'arrivent plus à porter la douleur du monde, quoi. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et le pape a ce rôle hyper important. Daniel, quand il est l'adjoint du roi de Perse, et qu'il y a une armée qui déferle aux portes de la Perse, il fait une prière de supplication, et l'armée est mise en déroute. Juste parce que lui, il est le numéro 2 du royaume, et il s'adresse au Seigneur en disant pardon, de la part de tout le peuple, je te demande pardon, comme prêtre en fait. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais il y a une prière, il y a le chapitre, ça doit être 8 ou 9 de Daniel, je crois, où il intercède pour le peuple, et il met en déroute tout le mal qui devait s'abattre sur la Perse, alors que la Perse, c'était pas le royaume d'Israël, la Perse, c'était même pas le peuple de Dieu, quoi. Mais il a cette capacité-là, comme second, et ça symbolise, je pense, le pape, ça va symboliser le temps d'aujourd'hui où il faut même deux papes pour soutenir les deux bras. Enfin, c'est très beau, ce signe qui nous est donné d'avoir le pape Benoît qui vient, je pense, soutenir son prédécesseur par sa prière, ses conseils, sa présence, quoi, hein, et soutenir le monde, peut-être le deuxième bras du Christ. Le curé, il va soutenir la paroisse, donc un curé qui prie beaucoup va, avec évidemment les prêtres qui lui sont confiés, va pouvoir détourner un certain nombre de fléaux de la paroisse. Donc pour nous, c'est pareil, en fait, dans nos familles, en tant que responsable de famille. Si on prie avec insistance, on va pouvoir détourner un certain nombre de fléaux qu'on aurait dû recevoir. J'ai un fils délinquant, ma supplication de père de famille va être hyper importante, parce que peut-être qu'à cause de mon fils délinquant, potentiellement, il va faire des grosses bêtises, il va aller en prison, il va y avoir un discrédit sur toute notre famille, on va avoir un prêt pendant des années pour rembourser les victimes de je sais pas quoi, vous voyez, enfin, des choses graves. Ma prière de père de famille, même s'il y a des très mauvaises choses aussi dans ma famille, en tout cas sur ceux qui me sont confiés, va avoir la même capacité que la prière du pape ou du grand prêtre pour le jour de l'expiation, c'est-à-dire une fois par an, il rentrait dans le temple et il faisait des rites et il prononçait le nom sacré de Dieu pour que Dieu pardonne à tout le peuple d'Israël. Le pape continue à jouer ce rôle-là, et chaque niveau, avec les personnes qui nous sont confiées, dans mon service au travail, et même dans mon service d'église, j'ai une certaine autorité, qui n'est pas une autorité aussi forte peut-être que dans ma famille, mais j'ai une certaine autorité pour demander pardon pour les péchés de ceux qui me sont confiés. C'est hyper important, ça. Donc, je peux lire une des prières de supplication, par exemple dans Daniel, ça doit être chapitre 8 ou 9, je crois, ça dure 5 minutes en plus, hein. Je me mets à genoux et je prie avec toutes les larmes de mon corps. Je peux prendre un des chapitres des Lamentations, le livre des Lamentations, on a juste à prendre un chapitre, chaque chapitre est indépendant, et c'est un pleur parfait qui va toucher le Seigneur d'une manière particulière. Il y a aussi le livre de Baruch, à partir de la fin du chapitre 2, il y a une prière de supplication un petit peu plus longue. Et puis après, chapelet de la Divine Miséricorde, ça c'est une super prière de supplication. Bah, plutôt pour les mourants, mais on peut s'en servir pour demander pardon pour n'importe quoi. Voilà. Et donc notre rôle de prêtre va se jouer là où on a autorité, quoi. C'est ça qui est très beau. Donc effectivement, on n'est pas le pape, on n'a pas peut-être pas la capacité de détourner toute la difficulté de Dieu à porter le monde, encore que certains saints, le Seigneur leur a dit qu'ils portaient beaucoup, parce qu'ils s'offraient en victime, mais donc on voit bien que certains laïcs recevaient des capacités quasiment équivalentes à des grands prêtres, quoi, vous voyez, parce qu'ils se sont tellement offerts pour le monde que ça a complètement transformé le monde. La prière des enfants à Pontmain, c'était des petits prêtres, en fait, hein, si on regarde bien.